Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Ravi de vous retrouver pour cette rentrée et pour cette nouvelle saison. Ils sont souvent pointés du doigt et encore plus depuis la semaine dernière et la démission fracassante du ministre français de la transition écologique Nicolas Hulot. Les lobbies, parfois appelés groupes de pression, défendent les intérêts particuliers de ceux qui les paient et leur rôle est de tenter d'influencer les décideurs, notamment politiques, pour que les lois et autres textes réglementaires aillent dans leur sens. On ne sait pas exactement combien ils sont, ni qui ils sont ou comment ils travaillent. Une opacité qui interroge. Quel est le poids des lobbies dans les décisions politiques? C'est la question du jour.
RFI.
Et pour tenter d'y répondre, deux invités sont avec nous en studio. Suzanne George, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes présidente d'honneur du mouvement Attaque France. Attaque, ça signifie à l'origine l'association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Et c'est une association qui milite pour la justice sociale et environnementale et conteste le pouvoir pris par la finance sur les peuples et la nature.
Voilà.
Et vous êtes également l'auteur de 17 livres. Et Thierry Coste, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes lobbyiste, directeur de l'agence Lobbying et stratégie et conseiller politique de la FNC, la Fédération Nationale des Chasseurs. Vous étiez présent à l'Élysée lors de la fameuse réunion sur la chasse qui a eu lieu la veille de la démission de Nicolas Hulot. On va peut-être en reparler. Mais d'abord, Suzanne George, sommes-nous gouvernés par les lobbies?
Nous sommes à différents niveaux gouvernés par les lobbies. C'est-à-dire que comme nous ne pouvons pas leur faire rendre des comptes, on n'est pas vraiment pleinement en démocratie. Donc si en partie notre gouvernement n'écoute que les lobbyistes, cela veut dire que nous ne sommes que partiellement en démocratie et que nous sommes tenus en dehors d'un certain nombre de décisions importantes.
Le problème démocratique pour vous, c'est qu'ils ne sont pas élus, donc ils ne rendent de comptes à personne.
Ils ne sont pas élus, mais ils ne rendent pas des comptes aussi. Sauf à à ceux qui les paient.
À leurs employeurs. Thierry Coste, vous revendiquez, vous, d'être un lobbyiste, notamment de la chasse, mais pas seulement.
Pas seulement.
Vous travaillez pour différents gouvernements étrangers. J'ai entendu parler du Tchad. Ça me permet de rappeler que nos auditeurs nous écoutent sur 100.2 FM à N'Djamena. Je vous pose la question dans les termes que Nicolas Hulot a employés. Êtes-vous un problème pour la démocratie?
Du tout. Du tout. Enfin, surtout pas dans ce cas-là, parce que on parle de lobbyistes, de lobby. Enfin, tout le monde a envie, à l'occasion d'une réforme, tous ceux qui ont une activité économique ou sociale ou syndicale ont envie de faire entendre leur voix pour essayer d'orienter le gouvernement dans tel sens ou dans tel autre. Ça, je pense que c'est légitime. Moi, ce qui m'inquiète toujours, c'est le lobby de la technocratie. C'est-à-dire quand les technocrates se consultent eux-mêmes sans écouter ceux qui ont une activité liée à ce qu'ils vont décider. Donc, là-dessus, il faut être modeste. Il y a 25 ans, quand j'ai commencé mon activité, je travaillais pour des grands groupes parce que le lobbying, c'était le privilège des grands groupes industriels, internationaux ou nationaux. Aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec tous les médias, faut être honnête, les lobbies, que ce soit des ONG, les associations de consommateurs, interviennent largement dans le débat public, ou les syndicats, qu'ils soient patronaux ou ouvriers, interviennent dans le débat public, et c'est tant mieux.
Ça veut dire que par exemple, une petite PME de, je sais pas, 50 salariés peut se payer un lobbyiste?
Ah non, alors le problème c'est l'argent. C'est-à-dire que moi, je ne travaille pas pour des PME de 50, mais je travaille pour des PME qui ont 200-300 personnes, qui sont des start-up, qui veulent faire passer les projets qu'ils ont, ou les recherches et développements qu'ils ont, pour réussir à être écoutés. Le drame, c'est qu'effectivement, pendant longtemps, il n'y a que les grands groupes qui étaient écoutés, parce qu'en plus, ils ont recruté soit d'anciens politiques reconvertis dans le lobbying, soit des hauts fonctionnaires, parce qu'ils peuvent les payer longtemps dans leurs entreprises. Aujourd'hui, le lobbying est beaucoup plus démocratique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. S'il y a transparence, tout est bien. S'il y a absence de transparence, là, je partage l'avis de madame.
Alors, Suzanne George, quand vous entendez que Thierry Coste met sur le même plan l'action que lui il mène et celle des syndicats, des ONG, est-ce que ça vous choque ou...
Non, ça me choque dans la mesure où le nombre d'ONG qui peuvent se payer ce genre d'intervention est minime, absolument minime. Moi, je suis plutôt, je suis spécialiste de rien du tout, mais dans mon travail, j'ai beaucoup travaillé sur les lobbies internationaux et en Europe et aux États-Unis. Et là, on a des problèmes parce que l'enregistrement fait défaut. On ne sait pas qui voit qui, combien de fois. On sait qu'en Europe, nous avons un registre qui est tout à fait insuffisante, que les gens prétendent, s'ils sont enregistrés, prétendent mettre, je ne sais pas, 12% de ce qu'ils font réellement en termes de payer des experts extérieurs et des lobbyistes professionnels. Et puis, en France, nous avons une vague loi qui s'appelle la loi Sapin, mais qui est totalement inadéquate pour les besoins. Alors, quand monsieur dit que les activités au niveau international ne sont plus du tout ce dont il s'occupe, ben, je le félicite parce que c'est là où se passe la plupart des choses qui nous gouvernent. En Europe, il y a au moins 15 000 lobbyistes, on dit entre 15 et 20 parce qu'on ne sait pas exactement, et qui couvrent tous les domaines de notre existence.
Thierry Coste, je fais du lobbying au Parlement européen, comme je défends des intérêts de gouvernements étrangers en faisant du lobbying, notamment auprès des instances internationales. C'est clair que, bien évidemment, aujourd'hui, il y a des modes de financement des partis politiques qui sont très différentes. Résultat, effectivement, vous avez des scénarios qui sont catastrophiques. Aujourd'hui, la NRA, qui défend les armes aux États-Unis, elle finance la campagne ouvertement des hommes politiques. Moi, je défends les utilisateurs légaux d'armes à feu ici. Nos seuls arguments, c'est nos experts, nos techniques pour dire ne foutez la paix aux gens qui utilisent correctement, qui acceptent d'être fichés, qui acceptent d'être suivis, qui déclarent leurs armes. Le problème, il est qu'effectivement, au niveau international, on a des règles qui n'en sont pas, et vous avez raison, elles n'existent pas. Au Parlement européen, il y a 15 000, vous êtes gentil, il y a plus de 30 000 lobbyistes, j'y vais régulièrement, moi je fais des déclarations sur l'honneur, sur tous mes clients.
30 000 ?
30 000, oui.
Ah ben vous augmentez beaucoup les chiffres que j'avais, je vous remercie.
Je déclare l'ensemble de mes clients avec les rémunérations qui vont avec, mais je vous l'accorde, il y a un certain nombre de gens qui ne font pas ça sous couvert de relations institutionnelles.
Pardonnez-moi, Susan Jones, allez-y, oui, finissez.
Il y a beaucoup de cabinets d'avocats internationaux qui, en plaidant que ça rompt le pacte client-avocat, même de mettre le nom de ceux pour qui ils peuvent agir devant la commission.
De confidentialité.
C'est hallucinant.
Et c'est le cœur du problème. Lobby en anglais, ça signifie hall, antichambre, couloir, un endroit qui n'est pas l'Assemblée, l'hémicycle, en tout cas pas le lieu où se prennent officiellement les décisions.
C'est la chambre des communes.
Voilà. Les décisions, elles se prennent toujours ailleurs. N'importe quelle décision, vous parliez de la réunion de lundi dernier, elle a fait l'objet de 4 mois de réunion de travail toutes les semaines. Le lieu de décision, c'est pas juste le lieu où on vote. Tout ça, c'est tout ce qui se passe avant et qui doit être suffisamment transparent pour qu'on sache comment ça s'est déroulé.
C'est justement le côté opaque qui pose problème, Susan Jones. Justement le côté opaque et on ne sait pas vraiment ce qui se passe. C'est ça qui pose problème.
Mais c'est aussi le fait que nous savons que les comités d'experts de la Commission européenne sont à 75-80% d'industriels qui viennent là pour défendre leurs intérêts. Il y a peut-être une ONG, il y a peut-être un académique, un universitaire, mais la plupart de ceux qui ont la main sur les lois de l'Europe, qui, je résume, nous gouvernent à 85% en France, en Allemagne, etc., c'est eux qui font les lois.
Thierry Coste, c'est quoi concrètement votre travail? Comment est-ce qu'on influence des décideurs politiques?
C'est un vrai travail. Il y a beaucoup de fantasmes. La réalité, c'est un vrai travail de fourmi. C'est d'abord un travail d'investigation. Moi, j'ai une règle. Je ne suis pas le VRP de mes clients. Je ne fais pas de la communication pour mes clients. J'essaie de regarder le champ de bataille, si on prend un des termes militaires, le champ de bataille dans lequel ils vont livrer la bataille de l'influence face à un gouvernement, mais face aussi à d'autres lobbies. Hein. Faut pas croire que les lobbies sont tout seuls. Je parle pas des lobbyistes comme moi, mais je parle des organisations ou des industriels, des chefs d'entreprise qui font du lobbying. Et donc, mon métier, c'est plutôt de regarder de l'autre côté des lignes ennemies ce qui s'y passe.
Vous faites du renseignement quelque part.
Bien sûr, de l'investigation. Il faut bien comprendre. Vous êtes journaliste, vous faites de l'investigation pour comprendre une situation. Il faut pas juste prendre les argumentaires de vos clients qui vous disent qu'ils sont les plus beaux et les meilleurs. Le lobbying tel que je le conçois, c'est un compromis. C'est un compromis entre l'intérêt privé que vous défendez, mais qui peut servir et créer des dizaines de milliers d'emplois, et l'intérêt public, et c'est le politique qui décide. C'est jamais le lobby.
Suzanne George, est-ce que ça veut dire, en fait, ce que dit Thierry Cosse, que l'intérêt général, au final, c'est la somme des intérêts particuliers? Est-ce que c'est pas un problème?
Non, pas du tout, parce qu'il y a deux poids, deux mesures. Ça pèse beaucoup plus que ce que peuvent faire les citoyens qui ne sont pas organisés. Je prends le cas de Monsanto, qui a été beaucoup dans l'actualité. Et Monsanto fait partie d'un autre groupe, au-dessus,
Bayer,
a été racheté. Mais de 62 organisations qui vont de Coca-Cola à Bayer, justement, qui sont alimentaires dans un sens très large et qui font du lobbying, mais avec des noms qui sont tellement plaisante. Le nom pour Monsanto, c'est l'Institut international des sciences de la vie. Bon, alors ça, vous publiez ça, vous signez Monsanto, vous signez Monsanto, vous êtes fichu. Mmh. Vous signez Institut international, maman.
Moi, c'est ce que j'ai toujours dénoncé, et ça fait 25 ans que je fais du lobbying, j'ai toujours dénoncé les faux nez, parce que je pense que on n'avance pas dans ces conditions. Effectivement, quand les experts, que des experts viennent du privé, c'est tant mieux, c'est pas les technocrates qui peuvent tout savoir. Mais par contre, il faut savoir qui les paye et quel est leur parcours. On a découvert, il n'y a pas si longtemps, quelques affaires qui sont choquantes, où on découvre des experts publics qui sont finalement financés par le privé, mais on ne le sait pas. Mmh. Vous pouvez avoir le meilleur expert. Il faut être honnête. Le lobbying, c'est pas juste rencontrer des gens pour leur dire il faut que tu ailles plutôt dans ce sens-là que dans celui-là. C'est un travail très technique. On défend, on débat sur des choses qui sont des normes, des règles, qui vont certes modifier la vie quotidienne des gens, mais sur des produits. Donc on est vraiment dans un débat technique. Donc le métier que je fais, c'est d'abord un métier de bonne maîtrise technique.
Thierry Cosse, vous choisissez vos clients ou est-ce que vous êtes arrivé d'en refuser parce que ce sont des causes auxquelles vous n'adhérez pas ou vous le voyez avant tout comme une relation d'affaires?
Non, j'ai la chance, mais c'est la notoriété qui veut ça, de pouvoir choisir mes clients. Je ne dis pas que je choisis les clients les plus faciles parce que j'aime le challenge difficile. C'est d'ailleurs pour ça que je travaille surtout pour des PMI, PME maintenant, mais aussi je travaille pour des gouvernements étrangers qui ont parfois en Europe la notoriété de démocratie autoritaire.
Oui. Je crois que Monsieur Comte a raison parce que d'après ce que je lis de ce qu'il a dit lui-même, je n'ai aucun moral. Il n'a pas dit j'ai choisi mes clients, mais quand on voit la liste de ses clients, on se dit il vaut mieux qu'il ait une attitude tout à fait honnête, et je le félicite de cette attitude ici. Mais quand on défend des gouvernements en Afrique qui se servent plutôt que de servir le peuple, ou l'Arabie Saoudite, on peut penser ce qu'on veut, mais bon.
C'est le moment de vous défendre, Thierry Cosse.
Non, mais je n'ai pas à me défendre. Je ne conduis pas des politiques gouvernementales. Donc, lorsque je travaille avec un gouvernement, c'est sur un sujet précis, détaillé, qui fait l'objet de négociations européennes, internationales, c'est précis. À l'inverse, quand je défends des entreprises françaises dans ces pays étrangers où les gouvernements les malmènent un peu, je fais la même chose. Je choisis effectivement. Je n'ai pas de morale au sens où ça veut dire quoi? Lorsque vous défendez des gens qui vendent des armes, on vous dira c'est immoral. Mais la France est le troisième vendeur d'armes au monde, donc il n'y a pas de moralité. C'est pour ça que je m'interdis de dire que j'ai une morale. Je suis passionné par un certain nombre de choses à faire régler. C'est pour ça que je m'occupe de chasse ou de ruralité, parce que ce sont mes divers de passions. Mais comme lobbyiste international, j'ai la chance de pouvoir choisir les causes que je défends. Je ne dis pas qu'elles sont les plus faciles à défendre, mais ça me plaît. Lorsque je me suis battu pour le rapprochement des deux parties de l'île de Chypre, c'est sans doute très bien dans le cadre des Nations Unies, mais j'ai été payé par un camp.
Voilà. Suzanne George, on entend parler, on lit parfois des histoires de textes de loi qui sont, ou d'amendements en tout cas, qui sont intégralement rédigés par des lobbyistes, qui sont proposés aux députés. Est-ce qu'il y a un problème de... Allez, je vais pas dire de fainéantise de nos élus, mais enfin bon, voilà. Est-ce qu'il y a pas une solution de facilité?
Absolument. J'ai eu les comparaisons des textes une fois entre Sir Leon Britton, qui était le commissaire pour le commerce, mm-hmm. et le texte d'origine qui venait directement d'un cabinet de lobbyistes, et c'était identique. Et Britton prend ça comme son manuscrit à lui. Mm. Enfin, c'est flagrant, mais ça, c'est usuel.
Vous rédigez des amendements clés en main?
Bien sûr, et des éléments de langage, mais n'importe quelle personne qui a fait un peu de droit public est capable, donc c'est pas mon cas, mais mes collaborateurs, est capable de rédiger. C'est pas le problème. La CGT fait exactement la même chose sur les lois sociales. Elle propose des textes clés en main. Elle l'a fait sur la SNCF. Le sujet, il est pas là. Il est dans la capacité, d'abord, de savoir ça vient d'où, et ensuite, dans la capacité des élus à expertiser tout ça. Moi, je plaide toujours. On a trop d'élus dans ce pays, et c'est tant mieux si on réduit le nombre d'élus.
Mais il leur faut pas encore faire. La réforme constitutionnelle est suspendue.
Mais c'est dommage, parce qu'il leur faut beaucoup plus de moyens, et il faut une vraie capacité d'expertise, comme ont un certain nombre d'autres pays.
Suzanne George.
Est-ce que l'on peut retourner aux lobbies qui vraiment ont un impact sur la vie de tous les jours, de tous les citoyens? Je pense aux lobbies agricoles, bien sûr, chimiques, financières. On n'a pas touché au système financier qui va nous préparer une autre crise, parce que après la dernière crise en 2008, que l'on va fêter, si j'ose dire, le 8 septembre avec le chute de Lehman Brothers, c'est maintenant... Des entreprises, des banques qui font exactement ce qu'elles faisaient avant, parce que les lobbyistes financiers ont pu convaincre tous les législateurs que ce n'était pas la peine de les réguler. Alors, on peut vraiment se poser des questions là-dessus. Et ce que nous mangeons, ce que nous buvons, ce que nous mettons sur les produits ménagers, etc., tout cela est très influencé par les lobbyistes et leurs scientifiques, parce que leurs études scientifiques sont acceptées directement par la Commission.
Oui. Mais il y a d'autres lobbies qui veulent justement arriver à casser ça, qui sont beaucoup plus tournés vers le bio, mais avec de vraies recherches et de vrais marchés. Et c'est vrai, moi je défends plutôt ces industriels-là. Ce sont des industriels qui veulent faire du profit, mais qui veulent lutter contre ces multinationales.
Profits,
c'est pas gênant. Mais je suis d'accord.
C'est le système que nous avons, mais faire le profit en mentant aux citoyens, ça, ce n'est pas, ça n'est pas acceptable.
Je suis d'accord.
Est-ce que, puisque c'est le mode de fonctionnement habituel, pourquoi est-ce que les militants écologistes n'ont pas recours à ces lobbies, Suzanne George?
Mais nous n'avons pas d'argent pour ça. Nicolas Hulot a été très courageux. Monsieur Coste est la goutte qui a fait déborder le vase, c'est tout.
Ça a l'air de vous faire plaisir à chaque fois qu'on le dit, Thierry Coste.
Ça me fait plaisir de savoir que je suis une goutte d'eau. Donc c'est rassurant, parce qu'il y a un côté pur.
Tout a été abordé du point de vue de l'agriculture, c'est-à-dire de la FNSEA. Ça doit être un lobby vraiment puissant.
Merci Suzanne George, merci à vous également Thierry Coste, merci d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour, Florence Ponce à la coordination, Charles Barré à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Laurent Salerno. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur notre site internet rfi.fr. Prochain débat mercredi, demain il y a Mardi Politique. Bonjour chez vous.